On va aller retrouver à l'instant Yann Sénéchal, votre conseiller .net. Salut Yann.
Salut Louise,
ça va
bien?
Ben oui, ça va quand même bien. Écoute, je dis quand même, parce qu'on dit toujours dans les circonstances, c'est sûr que on y a goûté un peu hier. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas nécessairement sur les réseaux sociaux, ils n'étaient pas nécessairement devant leur téléviseur, mais il y a eu une autre conférence de derrière. Les conférences de presse qui se sont multipliées là, depuis hier, mais c'est sûr que ça... C'est, je sais pas si c'était comme ça, mais c'est dur pour le moral un peu, là, les histoires de jaune à orange. Ça donne un coup pareil, là.
Ah, tout à fait. Puis on sent le gouvernement en panique présentement, alors qu'en réalité, on se demande encore s'il y a raison de paniquer, dans le sens que ce qui est important avec cette pandémie-là, c'est de protéger notre système de santé, de protéger notre capacité de soigner les gens. La réalité, c'est que présentement, il n'y a presque pas de gens hospitalisés dans toutes les régions du Québec là, pour la COVID-19. Donc, on les sent vraiment en panique, mais c'est à cause du nombre de cas qui est en hausse et non pas à cause du nombre d'hospitalisations. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement est de plus en plus confus dans sa gestion de la crise. Il veut utiliser son système d'alerte de couleur, mais déclenche très rapidement des nouvelles couleurs, alors qu'en réalité, c'est tranquille à bien des places. Ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est de vrais chiffres. Les hospitalisations, c'est vraiment important parce que au plus fort de la crise, oui, on a eu à peu près 1000 cas confirmés par jour, mais on avait aussi, en temps réel, 1750 hospitalisations. Là, on est à 130-140 hospitalisations. On n'est pas en temps de crise présentement. On va peut-être y arriver, c'est peut-être quelque chose qu'il faut se préparer, il faut faire attention, évidemment. Mais là, on sent le gouvernement en panique, mais pour des cas confirmés, c'est incompréhensible.
Ouais. Est-ce que, écoute, je t'entendais également parler du fait que le gouvernement, toutefois, laissait entrevoir, en quelque sorte, là, que avec une possible diminution du nombre de tests de dépistage, j'ai comme l'impression que, comme des fois on appelle ça un agenda caché quand on parle de politique, là, mais là, dans ce cas-ci, c'est plus en gestion de crise. C'est comme si on a quelque chose en arrière de la tête, mais on veut s'en aller peut-être vers le fait de dire, regardez, là on est sévère pas mal, mais si on réussit à diminuer le nombre de cas et on diminue du même coup le nombre de tests, ben c'est sûr et certain qu'en principe, les cas vont diminuer. Donc, on pourrait peut-être alléger le tout. Donc, en gros, ce que tu dis, toi, c'est qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. Mettons qu'on va être positif, là.
Oui, effectivement, c'est ce que je pense, parce qu'il y a peut-être un changement de stratégie présentement chez le gouvernement qu'on a de la misère à discerner pour l'instant, mais clairement, dans la conférence de presse hier, on sentait qu'ils voulaient cesser de tester n'importe qui pour n'importe quoi.
Ouais.
Dans le sens, on veut arrêter de détecter des asymptomatiques pour rien. Ça met beaucoup de pression aussi sur le système de test. On veut dorénavant tester beaucoup plus les gens qui ont été en contact direct avec une personne infectée, donc qui ont des vraies bonnes raisons de se faire tester et qui présentent des symptômes forts de la COVID, donc pas juste des gens qui coulent du nez, là, parce que faut le rappeler des fois, là, quand t'as un peu de morbe sur le bord du nez ou un rhume, autrement dit, c'est pas un symptôme de la COVID.
Ouais.
Y a d'autres symptômes beaucoup plus forts que ça. Donc, si le gouvernement veut arrêter de tester, tu sais, quand on teste les asymptomatiques, c'est un peu comme pêcher à dynamite, là, dans le sens que si tu lances un bâton de dynamite dans un lac, sois pas surpris de sortir du poisson de là, là. Donc, la grosse augmentation des cas confirmés qu'on a présentement, c'est beaucoup à cause de ce phénomène-là, parce que le pourcentage de tests qui revient positif, ça varie entre 0,5 et 1,5 environ. Donc, il y a beaucoup de tests qui sont gaspillés présentement.
Ah ouais.
Le gouvernement veut arrêter ça. Donc, si on arrête de tester tout le monde pour rien, on risque de voir le nombre de cas baisser. Puis, le gouvernement risque aussi de pouvoir démontrer à la population qui suit un peu moins les chiffres que nous, peut-être, que son système fonctionne, donc qui est en contrôle de la crise, parce qu'en réalité, pour l'instant, il n'y en a pas de crise.
Pas bête.
Il va peut-être en avoir une, mais on n'est pas là présentement. Non.
Mais Yann, justement, Louis et moi, on en discutait tout à l'heure, dans la première phase, le gouvernement a mis la marche tellement haute au niveau des mesures de protection, les fermetures, puis tout ça, l'isolement, que là, on a des cas qu'on commence à retrouver là, suite aux nombreux tests qui sont faits. Et là, on ne peut pas prendre ça à la légère parce qu'on a été tellement by the book dans la première vague que là, si on laisse trop de cordes, on risque de dire, puis on risque de se faire reprocher ce que beaucoup disent. Regardez, vous avez été beaucoup trop sévère.
Ah, effectivement. Puis c'est vraiment surprenant aussi de voir comment le gouvernement improvise au fur et à mesure, dans le sens que son code de couleur a été déployé il y a environ 2 à 3 semaines. La zone orange, on savait c'était quoi la zone orange, ça impliquait des fermetures de salles à manger dans les restaurants, par exemple, des choses comme ça, et ça n'a pas été fait, parce que la zone de Québec, oui, Québec, Chaudière-Appalaches, Montréal ont passé au orange, mais honnêtement, quand tu grattes un peu et tu comprends qu'est-ce qui a changé pour vrai, c'est que la fermeture des restaurants et des bars est passée de 00h à 23h le soir, là, tu sais.
Non, ouais.
On n'a pas passé réellement en zone orange. On est dans une zone jaune étoile. Ça, c'est tout nouveau. Là,
hey, mais ça, Yann, là, c'est tellement important de revenir là-dessus, là, prendre un petit peu de temps pour ça. Tu sais, pour ceux qui se disent, ouais, le gouvernement, c'est pas facile à gérer une crise comme celle-là. Puis, tu sais, quand on dit que c'est souvent brouillon, faut quand même le soulever, ça, ce point-là, là, qu'il y a 2 semaines et demie à peu près, on nous arrive avec un système d'alerte avec des couleurs. Puis dans chaque couleur, on dit telle affaire. Ça, si on arrive au orange, ça va fermer. Puis ça, ça va fermer. Puis ça, ça va fermer. 2 semaines plus tard, on arrive au orange. Puis on dit, ouais, ben là, ce qu'on vous avait dit il y a 2 semaines et demie, là.
C'est de l'orange modifié.
Là, c'est, ouais, là, c'est jaune-orange, là. Là, c'est. Ouais, mais c'est ça pareil. Tu sais, pour ceux qui trouvent que la gestion est extraordinaire, là. Tu sais, c'est important de le dire que. Tu sais, moi, des fois, c'est juste ça que je veux soulever des points comme ça qui font que c'est donc ben brouillon changer d'idée en 2 semaines. Puis là, c'est pas, là, on est quand même pas sur savoir si on va lancer des missiles là, dans une guerre nucléaire, là. Tu sais, c'est quand même, je veux dire, c'est de base, là, le restaurant, on le ferme-tu à 11h, on ferme-tu à minuit, on le ferme-tu, on le ferme-tu pas? Non, non, 2 semaines plus tard, on a changé d'idée complètement, là.
Ah, exactement. Puis ça montre aussi qu'il n'y a aucune démarche scientifique là-dedans. C'est très, très, très politique. C'est beaucoup de relations publiques qui sont faites présentement. Il y a une grande partie de la population qui ont une peur, peut-être fondée, parce que les médias ont fait une grosse job de bras pour alimenter cette peur-là. Donc, il y a vraiment une grosse partie de la population qui souhaite avoir plus de mesures.
Oh ouais.
L'affaire, c'est que cette population-là, elle suit pas les chiffres pantoute. Parce que si tu suis les chiffres, présentement, tu peux pas avoir peur, là. Quelqu'un qui comprend les chiffres de la pandémie, là, tu peux pas avoir peur présentement. Peut-être en mars, peut-être en avril, mais pas présentement. Donc, ces gens-là suivent pas vraiment les chiffres. Tout ce qu'ils veulent, c'est justement un passage d'une couleur à l'autre. Donc, les gens qui ont peur présentement de voir qu'une région passe du jaune au orange, ils sont satisfaits de ça. Ils ont l'impression que le gouvernement... Puis c'est ça qu'on dirait que le gouvernement, il voulait aller chercher. Par contre, le gouvernement n'était pas prêt à implanter toutes les mesures que la zone orange constituait dans les régions de Québec, par exemple, ou la capitale nationale, Chaudière-Appalaches,
ouais.
Parce que ça impliquait beaucoup de choses par rapport aux jeunes, les sports notamment. Puis
ouais.
C'est le seul point, on dirait, où est-ce que la population est intolérante par rapport aux nouvelles mesures.
Ouais.
On s'est fait imposer une tonne de nouvelles mesures. Ça passait avec un peu de sable dans l'engrenage, mais on finit toujours par avaler notre salive puis dire « OK, c'est correct, là, faites-les vos patentes, puis on va obéir, on va être docile, comme Mme Guilbeault aime nous le dire ». Mais aussitôt que ça touche les jeunes, par contre, là, la population se braque complètement. C'est les deux vieux sur le break qu'on veut rien savoir.
Yann, un petit mot peut-être sur Témiscouata sur le lac. J'en parlais un peu plus tôt en ouverture d'émission. J'aimerais savoir ton avis là-dessus parce que c'est ça. T'es un gars de la place. On a parlé de toi depuis 2-3 semaines. Là. Les gens connaissent un peu mieux ton histoire. Tu sais, le gars type là, qui s'en va étudier à l'extérieur, mais qui s'intéresse énormément, puis qui travaille aussi à l'extérieur, mais qui s'intéresse à ce qui se passe chez eux, puis qu'en même temps, peut avoir un regard de l'extérieur. Écoute, dossier des arénas, ça fait à peu près 10 ans qu'on se tiraille, un peu plus dans les dernières années, on le comprendra, avec l'effondrement de Phil Latulippe. Là, c'était la chicane à savoir, non, faut reconstruire à côté de l'école. Là, il y en a qui disaient, non, nous autres, on va avoir 2 arénas, on aimerait ça d'en avoir un à Notre-Dame-du-Lac aussi. Et là, écoute, c'était un peu le bordel là, depuis plusieurs années. Toi, quand tu regardes ça de l'extérieur, comment tu vois ça?
Ah, j'ai un gros malaise, parce que... tu sais, c'est sûr que je comprends la guerre de clocher vient d'où. Je veux dire, je suis un gars fier de Cabaneau, puis je suis pas capable de dire encore Témiscouata, moi non plus. puis je le dirai jamais, je pense. Puis j'ai détesté quand j'étais plus jeune les gens de Notre-Dame-du-Lac par jouer au hockey contre eux autres. Puis c'est comme ça. Tu sais, je comprends toute cette game-là. Ça, l'affaire, c'est que maintenant que j'ai quitté la région, puis tu vois d'autres choses, tout ça, tu comprends une chose aussi, c'est que Cabaneau et Notre-Dame, c'est deux villages tellement collés que oui, la fusion était logique. Puis c'est vraiment la même ville dans ma tête. C'est vraiment le même village. Je veux dire, j'ai déjà été arbitré du softball à Notre-Dame-du-Lac en vélo. Là,
t'sais. Oh oui.
Quand tu arrives et tu vis dans une place comme Québec ou Chaudière-Appalaches, tu comprends assez vite que... Tu sais, Cabaneau-Notre-Dame, c'est comme Beauport-Charlebourg.
Ah oui, c'est un naturel.
Il y a 5 minutes entre les deux. Là.
Ouais.
Fait qu'à ce moment-là, tu te dis... on a une opportunité, parce que c'est vraiment une opportunité que la région vit, là. Je veux dire, il y a quand même, je pense, comme 23 millions sur la table qui vient des gouvernements. C'est, faut le voir comme une opportunité pour réaffecter ces infrastructures socio-culturelles et sportives. De manière générale, en Amérique du Nord, les infrastructures sportives sont souvent construites près des écoles.
Ouais.
D'une manière très, très, très logique. C'est, on veut de plus en plus de sport étudiant. Il y a le sport civil, c'est de plus en plus difficile. Vous le voyez au hockey. Hockey Québec a beaucoup de difficultés parce que le sport scolaire, le hockey scolaire prend de plus en plus de place. Donc, d'une manière logique, on construit beaucoup les infrastructures sportives près des écoles.
Mmh.
Et les infrastructures un peu plus socio-culturelles ou communautaires, on est libre de les mettre où ce qu'on veut, en réalité. Donc, le plan qui a été proposé de mettre l'aréna près de l'école polyvalente à Cabaneau et ce qui est plus culturel ou communautaire à Notre-Dame-du-Lac, c'est vraiment un bon plan, là.
Mmh.
Ça a été réfléchi comme du monde. Je vois pas de faille dans ce plan-là. Mais les gens, il y a une guerre de clochons entre les deux places, mais, tu sais, je veux dire, c'est incompréhensible que les gens de ma place se chicanent pour ça. C'est beaucoup d'investissement dans une très petite région, une région qui voit de plus en plus de jeunes quitter l'endroit.
Ouais, ouais.
Arrêtez de vous chicaner puis construisez-la.
Dépêchez.
Vous en avez besoin de cette infrastructure-là. Prenez-la, arrêtez-la. C'est le message à renvoyer au monde de ma place parce que c'est des chicanes qui, vu de l'extérieur, sont malaisantes parce que je vois des amis dans les deux camps. Puis je me dis, c'est parce que vous êtes le même camp, les boys. Là. Arrêtez de vous chicaner. Là. Vous avez 23 millions, prenez-le. Construisez ça, puis have fun avec les infrastructures, là, vous allez triper. Là.
Yann Sénéchal, merci beaucoup. Votre conseiller.net, salut, là, bye.